Delhi, un marquis de Carabas. Chapitre 1. Le thé dansant que donnait aujourd'hui Madame Leduc, la femme du plus jeune médecin de Treillac, réunissait à peu près toute la meilleure société de la petite ville. L'hôtesse allait de l'un à l'autre, vive, aimable, un peu maniérée, bonne personne, d'ailleurs, comme le disait une vieille dame au profil de chèvre à Madame d'Emplaine, avec qui elle s'entretenait en regardant les évolutions des danseurs. L'autre, une blonde entre deux âges, au visage fané, approuva du bout des lèvres. Puis elle ajouta, avec une moue de dédain, « Mais elle est bien peu intelligente, soit dit entre nous. »« Oh, pas moins que beaucoup d'autres. Seigneur, que ces danses sont inélégantes !» Quand je pense à celle de mon temps, tout cela est bien loin, hélas. » Madame d'Emplaine dit sentencieusement, « Il faut être de son époque, madame. Voyez ma fille, elle est très sérieuse, en dépit de ses allures plus libres que celles ayant cours d'autrefois. » La vieille dame jeta un coup d'œil vers une petite blonde qui causait depuis un long moment dans une embrasure de fenêtre avec un jeune homme à mine de fat, vêtu avec une élégance trop appuyée. « Elle paraît trouver Jean-Paul Morin à son goût, votre Jeannine, ma chère amie. » Madame d'Emplaine soupira légèrement. « Il serait tout à fait le mari de nos rêves, mais on le dit très intéressé. » « C'est de famille. Le père Morin a épousé le sac en prenant par-dessus le marché la plus laide femme du monde. » Madame le Duc, qui s'approchait des causeuses, demanda en souriant « De qui parlez-vous? Quelle est la plus laide femme du monde ?»« Vous ne l'avez pas connue, chère madame. C'était la mère de Jean-Paul Morin, lequel fait rêver Jeannine, paraît-il. » Madame le Duc se mit à rire. Les jeunes filles ne rêvent plus aujourd'hui. C'était bon autrefois, ma bonne Madame Clémentier. Dommage, grand dommage. Elle n'en valait pas moins. Allez, rêver, je l'ai fait aussi quelquefois à 20 ans. Cela ne m'a pas empêché d'aider mon mari à la direction de notre fabrique quand la maladie l'a obligé à se ménager, ni d'élever mes 5 enfants qui se sont bien et honnêtement débrouillés dans la vie. « Oh, vous êtes une femme si intelligente !» dit Madame d'Emplaine sur un ton de flatterie. « Mais il n'empêche que cette éducation de votre époque, et même de la mienne, avait bien des inconvénients. Où n'en trouve-t-on pas dans ce pauvre monde ? Toutefois, je reconnais que nous avons encore quelques jeunes filles charmantes, comme votre petite cousine Hélène, par exemple. » La vieille dame glissait vers son interlocutrice un coup d'œil malicieux. Madame d'Emplaine eut un rire pincé en ripostant ironiquement « Hélène, mais c'est une jeune fille du temps jadis, élevée dans les jupes d'une mère ridiculement vieille France, qui en a fait une petite nigaude, s'effarouchant de tout, ignorant la vie, et avec cela sensible, très sottement. Cela n'est pas un défaut à mon avis. Quant à son genre d'éducation, évidemment, la pauvre Madame Surbert a eu le tort de ne pas mieux l'armer pour l'existence. Mais, sans doute, ne pensait-elle pas être enlevée si tôt de ce monde ? Madame d'Emplaine dit dédaigneusement « Je ne l'ai pas connue, mais je me la figure aussi insignifiante, aussi nulle que sa fille. » Madame Clémentier hocha la tête. « Insignifiante ? Et je ne trouve pas que la petite Hélène le soit tant que ça. » Bien jolie, en tout cas, fine, distinguée. Espérons qu'il se trouvera un homme intelligent pour la choisir entre 100 autres. Sans dot, comptez-y, cher ami. Bah, qui sait, dit Madame le Duc. Mais en attendant de généreux prétendants, pourquoi ne l'amenez-vous pas quelquefois à nos petites réunions? Elle se distrairait en s'habituant un peu au monde et à la vie que vous lui reprochez d'ignorer. « Vous oubliez qu'elle est en grand deuil. » Madame Clémentier déclara « Voilà 18 mois que sa mère est morte. » Mais elle ne veut pas encore le quitter. En outre, comme elle est destinée à gagner sa vie, il est beaucoup plus raisonnable qu'elle ne s'accoutume pas aux distractions mondaines. Madame le Duc demanda « Et que fera-t-elle, cette pauvre petite ?» Elle est bonne musicienne et pourra donner des leçons de piano, de solfège. Où cela? Pas ici? Nous avons déjà Madame Bruat, Mademoiselle Gerzier, Mademoiselle Claire, et cette dernière meurt de faim, dit-on. Le cas est embarrassant, je le sais bien. Pourtant, elle n'est pas capable de faire autre chose. Croyez-vous que sa mère, n'ayant pas de fortune, n'aurait pas dû la diriger vers une carrière un peu rémunératrice? Au lieu de cela, elle l'a élevée comme une rentière, et maintenant, c'est moi qui en ai toute la charge. » Sur ces mots, Madame Damplem soupira, en levant au plafond des yeux de martyr résigné. « Mais elle a une pension, cette petite, » dit Madame Clémentier. « Oui, mais si peu de choses, et je lui prends naturellement le moins possible là-dessus. Il faut savoir faire quelques sacrifices pour sa famille. » Elle s'interrompit. Un couple entrait, venant de la pièce voisine où l'on servait le goûter. Elle, une grande belle fille, légèrement rousse, aux yeux hardis, portant avec une désinvolture provocante une toilette du genre le plus nouveau. Lui, un gros garçon d'une trentaine d'années, vulgaire, poseur et visiblement plein de suffisance. La jeune fille riait, parlait haut, montrant de belles dents entre les lèvres savamment carminées. Tous deux traversèrent le salon pour regagner le jardin qui s'étendait jusqu'à la rivière. Madame Clémentier joignit sur ses genoux ses vieilles mains ridées en murmurant « Cette Camille Trémont, peut-on se compromettre ainsi avec ce gros Chervet ?» Un rictus moqueur plissa la bouche molle de Madame Damplem. « Et elle cherche le mariage riche. Théodore Chervet paraît ensorcelé au dire de ses amis. Avec ses goûts de dépenses et sa maigre dot, la belle Camille ne ferait pas si mal en épousant l'un des gros propriétaires du pays. Et le fils d'un usurier, d'un être taré, méprisé de tous durant sa vie. Lui-même n'est que sottise, prétention, vulgarité physique et morale. Je veux espérer que Mademoiselle Trémont n'a pas l'âme assez basse pour accepter un pareil mari. Elle y arrivera, croyez-moi. Attirés par sa beauté, les épouseurs s'éloignent en apprenant que cette élégante personne a pour dot 30 000 francs, sans espérance, puisque la rente assez ronde dont jouit sa mère n'existera plus à la mort de celle-ci. Camille, fille pratique, se lassera vite d'attendre le mari de ses rêves et se contentera du gros Chervet. Grand bien lui fasse, un triste ménage de plus sur la terre. Allons, je vous laisse maintenant. Pour contenter Madame le Duc, ma bonne voisine, j'ai fait cette petite apparition, mais je retourne à mon tricot. » Madame le Duc accompagna la vieille dame jusqu'au vestibule, tout en essayant aimablement de la retenir. Mais Madame Clémentier dit en riant « Non, non, ma figure du temps jadis n'a que faire parmi toute cette jeunesse un peu évaporée. Vous viendrez demain pour que je vous montre mon nouveau point de crochet. » Hier, j'ai donné une leçon à Hélène Surbert, qui fait, comme vous, tout ce qu'elle veut de ses jolis doigts. Ah, la charmante créature, physiquement et moralement. On prétend qu'elle ne doit pas être fort heureuse chez ses cousines d'Amplem. J'ai tout lieu de le penser, mais elle ne se plaint jamais, car c'est une fière et délicate nature. Jeannine en est très jalouse, je m'en suis aperçue, et Madame Damplem ne lui pardonne pas d'être infiniment mieux que sa fille. Voyons, est-il exact que ces dames n'aient qu'une fortune très médiocre ? Parfaitement exact. Autrefois, ces Damplem, grand propriétaire, tenaient le haut du pavé à Treillac et aux alentours. Mais André Damplem, dissipateur et insouciant, laissa péricliter si bien ses affaires qu'il eut vendre peu à peu ses terres, les plus belles de la contrée, pour venir vivre enfin des débris de sa fortune dans sa maison de Treillac. J'avais entendu dire que sa femme, très dépensière, avait largement contribué à cette ruine. Oui, oui, c'est vrai, elle a sa grande part de responsabilité là-dedans, comme aussi dans l'exil de son beau-fils. Elle ne s'entendait pas du tout avec lui. Certes non. Lorenzo, nature ardente, un peu violente même, difficile à diriger mais intelligent et loyal, détestait sa belle-mère qui a toujours aimé louvoyer, ruser et dont il devinait l'influence néfaste sur la trop faible volonté de son père. Il y eut, paraît-il, de nombreux conflits entre eux, si bien qu'à 18 ans, il s'engagea et partit pour le Maroc. Au moment de la mort de son père, il se trouvait à l'hôpital, ayant été blessé gravement dans la défense d'un poste. Un échange de lettres eut lieu entre le notaire et lui pour le règlement des affaires. Mais on ne le revit jamais par ici. Mademoiselle Ambert, à laquelle il témoignait beaucoup d'affection, a reçu il y a 4 ans un mot de lui l'informant de son départ pour l'Afrique du Sud, où il allait chercher fortune. Depuis lors, plus de nouvelles. Est-il encore vivant? Nul ne le sait. Madame d'Amplem continue d'habiter la maison qui appartient à son beau-fils. Des valeurs qui lui ont été attribuées à la mort de son mari, je crois qu'il ne doit plus rien rester. Elle vit sur le maigre revenu de ses enfants mineurs. Cependant, on fait bonne chère chez elle et ces dames se paient des toilettes neuves à chaque saison. On prétend qu'elle a beaucoup de dettes. Je m'en doute, mais à force d'expédients, on finit par faire la culbute. Si le jeune homme n'est pas mort, il peut, d'un jour à l'autre, venir réclamer son bien. Naturellement. Ah, elle lui ferait beau visage. Ce serait à voir vraiment. Et la vieille dame rit silencieusement. Madame d'Amplem ne pouvait pas le souffrir. Maintenant encore, quand elle en parle, elle ne l'appelle que l'aventurier. Toujours, elle a déclaré bien haut qu'il n'était qu'un cerveau brûlé, incapable d'arriver à quelque chose. Était-ce votre avis? Pas du tout. Évidemment, il avait un caractère difficile, une volonté peu maniable. Il travaillait par caprice, se fiant beaucoup à son intelligence, à sa mémoire remarquable et se plaisant surtout aux exercices du corps. Personne dans le pays ne montait à cheval comme lui. Mais je le soupçonnais de cacher beaucoup de cœur sous ses airs frondeurs et une grande énergie morale. Bien dirigé, ce garçon-là serait peut-être devenu un homme supérieur. Vraiment, j'aurais aimé le revoir, ce beau Lorenzo. Car c'était un superbe garçon qui avait les yeux de sa mère, une Italienne, orpheline pauvre et de grande famille, qu'André d'Amplem avait épousée par amour. Et tenez, cette origine aristocratique de Lorenzo entrait pour beaucoup dans l'animosité de sa belle-mère à son égard. Cette pauvre Madame d'Amplem collectionne toutes les mesquineries. Mais chut! N'offensons pas davantage la charité. D'ailleurs, j'aperçois Madame Loriot qui vous cherche. Sans doute a-t-elle en réserve quelques petites critiques sur votre réunion. Mais ne vous laissez pas mettre en laisse, chère madame.